On a commémoré en janvier 2023 les 25 ans de la grande crise du verglas. On a rappelé notamment la journée du 9 janvier, alors que Montréal est venu à deux doigts d'être A, entièrement plongé dans le noir, et B, privé d'eau potable. On a vraiment frôlé le désastre ce jour-là. Ça m'a donné envie de reculer à 1913, alors que Montréal avait été privé d'eau potable pendant toute la durée du temps des fêtes. La métropole est dotée de son premier réseau de distribution d'eau au tout début du 19e siècle, propriété d'une compagnie privée. Ça demeure très artisanal jusqu'aux années 1850. C'est à ce moment que la ville décide de se doter d'un réseau de distribution d'eau municipale digne d'une grande ville du milieu du 19e siècle. On construit un canal, le canal de l'Aqueduc, qui traverse les arrondissements actuels de La Salle et du Sud-Ouest, amenant l'eau sur 8 km jusqu'à sa destination finale dans Verdun, où on retrouve une station de pompage. On a un système de pompe qui envoie l'eau tirée du fleuve dans un grand réservoir situé dans le secteur de l'Université McGill, et de là, on la distribue aux quatre coins de la ville. Au début du 20e siècle, on améliore à nouveau le système en remplaçant le canal à ciel ouvert par une conduite souterraine en béton comme seule source d'eau potable de l'aqueduc municipal. Et en effectuant des travaux dans le secteur, on endommage la nouvelle conduite d'eau qui se brise le 25 décembre 1913, un bris que le service de l'aqueduc n'hésite pas à qualifier de pire désastre de son histoire. Vraiment, tout a été compliqué dans ce dossier-là. On voyait que la pression d'eau diminuait, mais on ne disposait d'aucun équipement électronique, informatique ou autre pour trouver la fuite dans une canalisation qui se trouvait en moyenne à 7,5 m sous la surface du sol. Le bris a eu lieu le jour de Noël, alors que tout le monde ou presque était en congé, et la plupart des employés de l'aqueduc n'avaient pas le téléphone à ce moment-là. Il a fallu passer de porte en porte pour aller chercher les travailleurs. Et une fois qu'on a localisé la rupture, ben, il fallait creuser dans 7 mètres de terre gelée pour aller la réparer. Et si ça avait été une fissure, on aurait probablement pu la colmater sans trop de problèmes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait toute une section de la canalisation qui devait être carrément remplacée et qu'on devait interrompre l'approvisionnement en eau pour faire les réparations qui s'imposaient. Il a fallu fabriquer de toute urgence un tuyau métallique d'une longueur, et là, les sources ne s'entendent pas, j'ai lu 25 mètres, j'ai lu 40 mètres, mais que ce soit l'un ou l'autre, on s'entend que c'était un bris majeur, et ce bout de tuyau-là allait être inséré dans la conduite de béton. C'était la solution la plus rapide selon les ingénieurs de la ville, et heureusement qu'on n'a pas pris la solution la plus lente. Moins de 24 heures après le début de l'interruption, les réservoirs d'eau qu'on retrouvait à différents endroits sur le territoire étaient à sec. L'aqueduc avait été municipalisé dans les années 1850, mais il existait encore une compagnie privée, la Montreal Water and Power Company, qui alimentait des banlieues comme Westmount, par exemple. On a été bien content de pouvoir compter sur la compagnie qui a mis son réseau au service de l'aqueduc municipal. Mais la Montreal Water and Power pouvait fournir environ 95 millions de litres d'eau par jour, alors que la ville en consommait deux fois plus. Ce n'était donc pas une panacée. On a demandé aux Montréalaises et aux Montréalais d'économiser l'eau, d'utiliser de la neige. Heureusement, on en avait cet hiver-là. Il fallait faire fondre la neige et faire bouillir l'eau au moins une demi-heure avant de l'utiliser. Il y a aussi des gens qui se sont tournés vers quelques points d'eau qu'ils pouvaient trouver, que ce soit un puits artésien ou encore le ruisseau local. La ville à ce moment-là était traversée par un réseau de ruisseaux et de petites rivières qui offraient une eau d'une propreté variable. Et surtout, à une époque où les gens se chauffaient très souvent à l'aide de radiateurs dans lesquels circulait de l'eau, on disait aux gens de ne pas prendre l'eau des radiateurs, que ça endommagerait les systèmes de chauffage et qu'il fallait s'assurer de ne pas manquer d'eau dans ses calorifères. Le 27 décembre, la presse tonnait. On ne le dissimule plus à l'hôtel de ville. Montréal traverse une heure tragique de son histoire. 350 000 Montréalais se trouvent aujourd'hui à la merci des événements. La Providence leur sera-t-elle secourable ou hostile? L'avenir le dira. Le maire de Montréal, Louis-Arsène Lavallée, a demandé aux industries non essentielles qui utilisaient de l'eau de fermer temporairement. À la troisième journée de la crise, on a commencé à distribuer de l'eau dans les secteurs les plus affectés et dans les grandes institutions, les hôpitaux notamment, en montant des citernes sur des voitures tirées par des chevaux. On avait 160 véhicules en service. J'ai aussi vu passer une publicité du magasin Ogilvy du centre-ville qui a dit « On a un puits artésien, si vous avez besoin d'eau, appelez-nous ». On ira vous en livrer. Mais les distributions n'étaient pas toujours suffisantes pour qui voulait étancher sa soif. Un commerce illicite s'est rapidement mis en place. On rapporte même qu'au moins une cargaison d'eau minérale destinée à un commerce a été volée à la pointe du fusil pendant la crise. Mais plus grave encore que le risque de manquer d'eau pour la consommation, il y avait le risque lié aux incendies. Le feu était une des grandes préoccupations des autorités, même quand l'aqueduc fonctionnait bien. D'ailleurs, quand on avait procédé à une mise à niveau des réseaux d'eau dans les années 1850, c'était suite à un grand incendie qu'on n'avait pas pu combattre parce que les réservoirs étaient à sec. Environ 20 % des constructions de Montréal avaient été rasées à ce moment-là. Il y a eu des incendies, bien évidemment, pendant la période sans eau. Les pompiers utilisaient des extincteurs chimiques. Dans certains cas, ça a été suffisant. Mais le plus souvent, il fallait trouver une borne fontaine où on avait de la pression d'eau, quitte à devoir parcourir plusieurs coins de rue pour y arriver. Un incendie s'est déclaré rue Ontario et les pompiers ont passé une bonne demi-heure sans pouvoir faire quoi que ce soit. « Nous avons rarement vu un spectacle aussi lamentable que celui-là », disait la presse. Habitués à se lancer à l'assaut des flammes avec une promptitude admirable, à dresser jets d'eau et échelles en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nos pompiers, tout désorientés, couraient ça et là, cherchant vainement le moyen de se mettre au travail efficacement. Le chef des pompiers se disait même prêt à faire sauter des bâtiments à la dynamite pour éviter la propagation des flammes. Ça n'a pas été nécessaire, heureusement. Au petit matin du 30 décembre, on a complété l'installation du nouveau tuyau métallique et on promettait le retour de l'eau d'ici la fin de la journée. Mais le joint qui connectait le tuyau métallique à la conduite a cédé et on a dû tout arrêter moins de 90 minutes plus tard. La pénurie se poursuivait. Et un incendie important va se déclarer au Carré Saint-Louis le 1er janvier, incendie qui, selon les journaux, aurait pu être contrôlé en 15 minutes si les pompiers avaient pu disposer d'une pression d'eau normale dans leur tuyau. C'est une bougie allumée dans un sapin de Noël qui se serait renversée et aurait provoqué la conflagration. Malgré tous les appels à la prudence, il y a quand même certains citoyens et citoyennes qui ont allumé des bougies dans le sapin pour le nouvel an. Trois de ces belles maisons du Carré Saint-Louis ont été détruites, une quatrième sérieusement endommagée. Le feu a causé la plus vive émotion dans ce quartier fashionable de la ville et les nombreux curieux ont acclamé l'arrivée tardive d'une petite quantité d'eau. On se considérait très chanceux qu'il ne ventait pas ce jour-là, ce qui aurait pu avoir des conséquences épouvantables. Après l'échec du 31 décembre, on en avait assez et le journal La Patrie a réclamé que l'on réhabilite le canal de l'aqueduc, qui était vide et en cours d'élargissement à ce moment-là. La population a assez souffert. Qu'on lui donne de l'eau dans les plus brefs délais et à n'importe quel prix. Si l'ouverture, l'inondation de l'ancien canal est le plus prompt remède à employer, qu'on s'en serve, quelles qu'en soient les conséquences financières. On arrêtera les travaux d'élargissement. L'entrepreneur en souffrira, on le paiera. Cela coûtera encore moins cher que de voir Montréal tout entier passer au feu ou en proie aux plus terribles épidémies. On a fait une ultime tentative avec notre tuyau métallique en fin de soirée le 2 janvier. On se disait, si ça ne marche pas, on va réhabiliter le canal de l'aqueduc. Mais ça a fonctionné. L'eau était revenue à sa pression normale dans tous les foyers au courant de la nuit, après 8 longues journées de pénurie. L'affaire n'était pas encore réglée que des gens s'accusaient de toutes parts d'incompétence, de négligence. Il y avait beaucoup de gérants d'estrade. Les hommes d'affaires, évidemment, étaient furax. Ils ont dû, imaginez-vous, dans bien des cas, donner congé à leurs travailleurs-travailleuses entre Noël et le jour de l'an, des congés non payés, bien évidemment. Quelle horreur! Le maire Lavallée n'a pas particulièrement bien paru dans ce dossier-là. D'ailleurs, il ne s'est pas représenté à l'élection qui a eu lieu au printemps 1914. On a tenu dans le courant de l'année une enquête sur le bris de la conduite, bien inutile à mon avis. L'archevêque de Montréal, Mgr Bruchesi, avait organisé sa propre commission d'enquête et pendant la messe de minuit du Nouvel An, il a dévoilé en chair que la véritable cause de la pénurie d'eau, c'était que Montréal n'était plus aussi religieuse que 25 ans auparavant. Des malheurs comme celui dont nous avons actuellement à souffrir sont souvent des avertissements de Dieu. Dieu veut que son nom soit respecté et il ne peut être qu'irrité à la vue des parjures nombreux qui se commettent quotidiennement. On tiendra une enquête pour tâcher d'établir les responsabilités de la situation présente, mais on ne tiendra peut-être pas assez compte de la justice divine qui se sert parfois de semblables moyens pour donner de salutaires avertissements. Donc voilà, Dieu a privé les Montréalais et les Montréalaises d'eau pendant 8 jours pour leur bien. Parce que trop de gens travaillaient le dimanche au lieu d'aller à la messe. C'est une des manchettes de journaux les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. La ville de New York se trouvait dans une situation financière absolument épouvantable dans les années 1970. Mais le président américain Gerald Ford avait déclaré qu'il apposerait son veto sur quelque initiative que ce soit du gouvernement fédéral pour renflouer les coffres de la ville. En une de son édition du 30 octobre 1975, le Daily News de New York titrait « Ford to City, Drop Dead ». Ford dit à New York « Va te faire voir », c'est une traduction maison. Et cette manchette-là m'est revenue en tête alors que je faisais ma recherche sur la pénurie d'eau de 1913-1914 pour une raison fort simple. J'ai pas lu toutes les éditions de tous les quotidiens de Montréal pendant la période, ça aurait été une entreprise assez considérable, mais une chose m'a frappé. De tout ce que j'ai lu, à aucun moment il n'a été question d'une quelconque implication des autres paliers de gouvernement dans la résolution de la crise. On s'entend que si quelque chose comme ça se produit aujourd'hui, dans les 24 heures, on a une conférence de presse conjointe de la mairesse de Montréal, du premier ministre du Québec, du ministre de la Métropole, le lieutenant québécois Justin Trudeau et je ne sais trop. Tous les paliers de gouvernement auraient voulu, à tout le moins, avoir l'air de contribuer à la résolution du problème. Mais là, vous avez la Métropole du Québec et du Canada à l'époque, privée d'eau pendant plus d'une semaine, et j'ai même pas vu l'ombre d'une déclaration du genre « Le premier ministre du Québec est très préoccupé par la situation ». Rien du tout. Le réseau d'aqueduc, c'était une responsabilité de la ville. C'était à elle de s'arranger avec ses troubles. Et j'ai vu personne réclamer l'intervention des autres gouvernements non plus, même si les ingénieurs de la ville semblaient dépassés par les événements. En cette période de non-interventionnisme étatique, on ne s'attendait pas à ce que le gouvernement nous vienne en aide en cas de besoin, même lorsqu'une grande ville était menacée par la soif et les incendies.